Bonjour à toutes, bonjour à tous, en route sur les chemins de la philosophie. Et quelle semaine que cette semaine, et quel jour que celui d'aujourd'hui, où l'on vous emmène en immersion dans l'œuvre de Bergson, à la recherche du temps irrémédiablement perdu, et de la durée toujours déjà là. Alors comment passer du temps à la durée? Eh bien, retournez vos montres, éteignez vos réveils, recouvrez vos horloges, on plonge pour de bon dans la création continue de notre propre existence.
Bonjour Adèle Van Rijs.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci de votre invitation.
C'est un plaisir de vous y accueillir. On est en train d'écouter la première partie du Köln Concert de Keith Jarrett, une musique improvisée, lui est seul devant son piano et devant un public. C'est la musique bergsonienne par excellence, non?
Mais en fait, toutes les musiques sont bergsoniennes. Toute la musique est forcément bergsonienne.
Mais l'improvisation un peu plus encore, non?
En fait, pas forcément. La musique est bergsonienne tout simplement parce que selon Bergson, c'est dans la musique qu'on fait l'expérience d'un temps où s'ajoute imprévisiblement chaque note les unes après les autres, où la musique n'est plus seulement, quand on l'entend, n'est plus seulement une succession de notes dans l'espace, mais une expérience temporelle indivisible. Et donc, dès qu'il y a un peu de musique, dès qu'on l'entend pour elle-même, on est bergsonien.
Vous êtes professeur de philosophie contemporaine à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, mais depuis 2015, vous êtes directeur adjoint lettres de l'ENS. Vous avez dirigé la première édition critique de Bergson, hein, vous avez appelé le choc Bergson. Et donc c'est avec vous que nous allons commencer cette semaine sur La pensée et le mouvant, qui est le dernier livre publié d'Henri Bergson. Alors Henri Bergson, pour rappel, est né en 1859, il est mort pendant la Seconde Guerre mondiale en 1941. Il a vécu exactement le même nombre d'années au 19e qu'au 20e siècle. On pourrait presque parler d'une vie symétrique qui bascule d'un siècle à l'autre, d'un monde à l'autre. Et c'est d'ailleurs en 1900, à l'exact milieu de son existence, que paraît Le rire, essai sur la signification du comique, qui prolonge Matière et mémoire, essai sur la relation du corps à l'esprit, paru 4 ans auparavant, en 1896. C'est le début, dirions-nous aujourd'hui, avec un regard rétrospectif d'une grande pensée qui ne cessera de se déployer à travers les décennies qui suivent. Mais Bergson, lui, ne cesse de pointer l'illusion qui consiste à croire que les choses débutent, qu'elles ont une fin. Le temps n'est pas une ligne continue que l'on peut découper en présent au milieu, passé à gauche et futur à droite. Cette ligne, et c'est là le grand apport de Bergson à l'histoire de la philosophie, ça n'est pas du temps, c'est de l'espace. Le temps, lui, réellement compris, c'est le temps vécu. C'est ce que Bergson nomme la durée. Or, comment ressaisir à travers les mots, à travers notre intelligence, ce qui relève d'une intuition, c'est-à-dire d'un rapport immédiat aux choses. Voilà une première façon de comprendre le titre de ce livre de Bergson qui va nous accompagner cette semaine, titre qui signale un problème, la pensée et le mouvant. La pensée qui serait du côté de l'intelligence, mais qui serait incapable de saisir l'essentiel, à savoir le mouvant, qui échappe par nature au travail de l'intelligence. Alors je précise qu'il y a une solution à ce problème. On ne va pas la dévoiler tout de suite, Frédéric Worms, mais c'est vrai que ce titre, finalement, est une bonne entrée dans l'œuvre de Bergson. C'est le problème qu'il se pose tout au long de ses ouvrages.
Bien sûr, et ce qui est à la fois étonnant et admirable, c'est que, d'ailleurs vous y êtes très fidèle, c'est que vous commencez votre série sur Bergson par son dernier livre, et qu'il a ménagé la porte d'entrée dans son œuvre à la fin. Et c'est tout à fait délibéré, d'abord parce que, au fond, d'après lui-même, il faut d'abord traiter les problèmes, les affronter, les problèmes philosophiques vitaux, et c'est rétrospectivement qu'on définit la méthode, mais en plus parce que maîtrisant cette idée que notre esprit fonctionne de façon rétrospective, il avait tout à fait conscience qu'on lirait son dernier livre avant les autres et que la manière dont il décrirait rétrospectivement sa pensée serait la manière dont nous y entrons. Donc il avait en fait prévu notre émission. Il l'avait anticipé et il avait prévu qu'il fallait que son dernier geste soit encore le premier. Et en effet, à la toute dernière fin de son œuvre, il retrouve son intuition originelle qui est en effet sur cette relation à double face entre la pensée et le mouvant, ce terme qui est en effet surprenant, qui n'existe pas vraiment en français, puisque c'est un participe présent devenu un substantif, un mouvement qui n'est pas entièrement stabilisé dans le langage, qui cherche à nous surprendre par ce procédé aussi grammatical ou rhétorique.
Alors le texte part en 1934, c'est un recueil de 10 essais et conférences qui ont été écrits entre 1903 et 1923. La particularité du contenu de ces essais, de ces conférences qui sont... Alors, on peut dire que toute l'œuvre de Bergson est magnifique, mais là, on atteint vraiment un niveau, c'est presque du sublime, hein, tellement ces mots sont précis et poétiques à la fois. Et comme ce sont des courts textes, on peut y entrer assez facilement. Hein. C'est une bonne façon, effectivement, de commencer quand on n'a pas lu Bergson. Mais ils ont cette particularité, et surtout dans les essais introductifs dont nous allons parler aujourd'hui, de s'interroger aussi sur la méthode même, qui est celle de Bergson. Parce qu'en réalité, pour lui, sa méthode est la même chose que le geste de la philosophie. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement formel comme réflexion.
Oui, tout à fait. Bergson dit lui-même que, après un premier recueil d'articles paru en 1919 qui traitait de certains problèmes de psychologie et de philosophie, des problèmes, disons, concret, empirique, est-ce que l'âme et le corps, le cerveau, etc. Il publie ce deuxième recueil où il rassemble ses essais consacrés à la méthode. Mais la méthode, ça pourrait paraître très abstrait, ouais. Au fond. Ça pourrait dire, voilà, comment on doit penser les choses avant de les penser. Or, la méthode fait partie du réel. De deux façons. D'abord parce qu'elle affronte un écart qui nous sépare du réel. La pensée et le mouvement, le « et » doit d'abord être compris comme une séparation. La pensée qui, comme vous le disiez, n'arrive pas à penser le mouvant, qui est dans un écart avec lui, un écart structurel qui tient à la nature même de notre esprit. Nous sommes dans le temps, mais notre esprit, par nature, pour vivre, pour survivre, doit s'en détacher parce qu'il doit maîtriser le temps et donc le nier. Donc il y a une sorte d'écart insurmontable et en même temps il est surmontable puisqu'il y a une forme de pensée qui peut quand même arriver à penser le mouvant. Donc la pensée n'est pas seulement dans un écart mais aussi dans une expérience du temps et donc la méthode c'est le cœur de la philosophie en un sens. Alors c'est le cœur de notre réalité aussi. Nous nous rejoignons nous-mêmes à travers la méthode.
Il n'y a pas de différence pour Bergson hein, entre la philosophie et la réalité. Si la philosophie se comprend comme ce geste qui consiste à coïncider avec le réel, alors c'est une manière de ressaisir ce qui est déjà là.
Il n'y a pas de différence, mais nous l'oublions tout le temps. L'immédiat chez Bergson est là, mais en même temps doit toujours être reconquis sur une séparation. Et donc, au fond, oui, la philosophie est une expérience réelle, mais elle est aussi, par nature, toujours réflexive, toujours à distance, et elle doit surmonter cette distance pour revenir à l'immédiat. C'est ça le paradoxe. On doit critiquer la pensée pour revenir au réel. Un peu de pensée nous éloigne du réel, et beaucoup nous ramène à l'origine.
Alors voilà, mais ça c'est l'idée centrale de Bergson, on va peut-être commencer à développer ce point-là, c'est que dans quel sens est-ce que pour Bergson, l'intelligence et la pensée nous éloignent du réel ?
Il nous éloigne du réel parce que, précisément, elles ont d'abord une fonction pratique, au fond. La pensée, pour Bergson, n'est pas une activité pure, désincarnée, désintéressée, comme s'il y avait le réel, et un réel pur, et face à lui, un spectateur pur. En réalité, nous sommes des êtres vivants, nous avons été, il l'a découvert progressivement au fil de son œuvre, il n'a pas réfléchi tout de suite sur la vie, mais nous sommes des êtres vivants et notre pensée a d'abord une fonction pratique. Et cette fonction pratique, qui est donc réelle, est en même temps contradictoire avec l'essence de la réalité. L'essence de la réalité est temporelle, fluide, en changement constant, et en même temps, notre pensée doit chercher à la maîtriser, à s'y repérer. Et donc, au fond, notre pensée qui est réelle, et parce qu'elle est réelle, produite par le temps, doit s'en détacher pour le maîtriser, parce que sinon, nous ne pourrions pas survivre. C'est notre limite, c'est la limite de l'espèce humaine. Bergson a une définition très simple de l'intelligence. Vous parliez d'intelligence. Dans les textes dont nous allons parler aujourd'hui, il dit l'intelligence, c'est la manière humaine de penser. Mais humaine, C'est une critique, en fait. Ça veut dire que c'est manière humaine et seulement humaine. C'est la manière de l'espèce humaine. Et donc, au fond, philosopher, c'est être, prendre conscience des limites de la pensée humaine et chercher à les dépasser pour rejoindre ce qu'elle a écarté, c'est-à-dire le changement constant, la transformation perpétuelle.
Et il y a aussi un terme qu'il faut qu'on introduise dès maintenant pour bien comprendre ce dont nous parlons, c'est celui d'intuition. Si l'intelligence nous éloigne du réel, l'intuition est peut-être ce qui, au contraire, nous y relie de la manière la plus immédiate possible.
Oui, alors c'est paradoxal, et Bergson le souligne au début du deuxième texte dont nous allons parler. Ce qu'on entend en philosophie par intuition, c'est la connaissance immédiate des choses. Ça vient du verbe voir, c'est-à-dire c'est le contact immédiat. Et donc, en réalité, le problème de Bergson, c'est que cette intuition est originaire, elle est toujours là, au fond de nous, comme nous la retrouvons quand nous écoutons de la musique, quand nous plongeons dans notre vie réelle, par exemple, dans les moments graves de notre vie, quand nous devons prendre des décisions, c'est ce qu'il montre dans son premier livre. Là, on dépasse aussi l'intelligence. Et au fond, la philosophie n'est pas la seule manière de rejoindre l'intuition. Mais cette intuition qui est là, nous l'oublions à cause de notre intelligence. Et donc, le paradoxe de la philosophie, c'est que pour elle, l'intuition n'est pas seulement un donné, mais une obligation, et il a dû en faire une méthode. Au fond, le paradoxe du début du deuxième texte, il dit « Progressivement, nous avons été amenés à faire de l'intuition une méthode. »
Ce qui paraît paradoxal.
Ce qui paraît tout à fait paradoxal. Dans l'histoire de la philosophie, il y a des gens qui ont voulu nous donner des intuitions d'une réalité supérieure, d'une réalité métaphysique, des choses en elles-mêmes. Pour Bergson, ce n'est pas ça du tout. Faire de l'intuition une méthode, ça veut dire revenir à l'intuition très simple que nous avons tous du réel temporel, mais que nous oublions.
Quelle était la situation de la philosophie française en 1923?
La philosophie française, du moins de mon point de vue, de l'époque, n'est-ce pas? C'était la philosophie dominée par Bergson, qui était présent à l'enseignement de tous. Qu'on développe ses idées ou qu'on s'y oppose, c'était toujours le philosophe de référence, le philosophe vivant, celui qui prouvait par son existence et par son génie, que la philosophie est une chose possible.
Notre intelligence est le prolongement de nos sens. Avant de spéculer, il faut vivre. Et la vie exige que nous tirions parti de la matière, soit avec nos organes, qui sont des outils naturels, soit avec les outils proprement dits, qui sont des organes artificiels. Bien avant qu'il y eût une philosophie et une science, le rôle de l'intelligence était déjà de fabriquer des instruments et de guider l'action de notre corps sur les corps environnants. La science a poussé ce travail de l'intelligence beaucoup plus loin, mais elle n'en a pas changé la direction. Elle vise avant tout à nous rendre maîtres de la matière. Même quand elle spécule, elle se préoccupe encore d'agir. La valeur des théories scientifiques se mesurant toujours à la solidité de la prise qu'elle nous donne sur la réalité. Mais n'est-ce pas là précisément ce qui doit nous inspirer pleine confiance dans la science positive et aussi dans l'intelligence, son instrument? Si l'intelligence est faite pour utiliser la matière, c'est sur la structure de la matière, sans doute, que s'est modelée celle de l'intelligence. Telle est du moins l'hypothèse la plus simple et la plus probable. Nous devrons nous y tenir tant qu'on ne nous aura pas démontré que l'intelligence déforme, transforme, construit son objet ou n'en touche que la surface ou n'en saisit que l'apparence. Il est impossible de considérer le mécanisme de notre intelligence et aussi le progrès de notre science, sans arriver à la conclusion qu'entre l'intelligence et la matière, il y a effectivement symétrie, concordance, correspondance.
Vous écoutez France Culture, Keith Jarrett, Henri Bergson et Frédéric Worms. C'est le programme de ce matin. Nous parlons de la pensée, le mouvant, le dernier texte d'Henri Bergson toute cette semaine. On a entendu Frédéric Worms, la voix d'Emmanuel Lévinas, hein, qui rappelait qu'en 1923, date du dernier texte écrit de Bergson qui est publié dans ce recueil, la philosophie française était dominée par la pensée de Bergson. On a ensuite entendu un extrait de la pensée mouvante du deuxième essai introductif, hein, sur l'intelligence et la matière. Comment est-ce qu'on mesure la nouveauté de ce que dit Bergson? Avant de spéculer, il faut vivre. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui fait qu'il est autant entendu à ce moment-là?
Oui, c'était très émouvant d'entendre la voix d'Emmanuel Lévinas, et je voudrais essayer de relier les deux très beaux textes là, qu'on vient d'entendre, les deux très beaux passages que nous venons d'entendre, la voix de Lévinas et puis le thème, en effet, que vous venez de rappeler. Quand Lévinas arrive à Paris, pourquoi est-ce que Lévinas vient à Paris? Même Lévinas est né en Lituanie, comme vous le savez, il est allé étudier ensuite la phénoménologie auprès de Husserl et de Heidegger en Allemagne, et puis il choisit de venir à Paris, et il a une phrase magnifique, il dit, il vient à Paris parce que Paris, c'est Bergson. Paris, c'est Bergson. Paris, c'est Bergson, c'est-à-dire c'est en effet pour lui une philosophie qui a fait un geste critique et une percée majeure. Il le dira toujours, ce geste critique, c'est de critiquer les limites de notre intelligence, qui est en effet tournée vers la vie. Critiquer cette prétention aussi de la philosophie à saisir le réel avec les moyens du système, les moyens de la pensée logique, les moyens de l'intelligence, et montrer qu'une part du réel résiste à ce système, et c'est le temps. Et Lévinas dira, le temps, c'est l'autre, c'est l'altérité. C'est le changement radical, mais comme altérité radicale. Donc il va reprendre l'intuition fondamentale de Bergson et la déplacer du temps à l'éthique, du temps à autrui. Donc il a toujours gardé ce lien très vivant à Bergson. Mais au fond, il y a quand même une différence qu'il faut souligner. C'est pour ça que Bergson était à la fois central en 1923 et en même temps a aussi rencontré des objections majeures. C'est que pour Lévinas, il y avait un geste critique extrêmement fort de Bergson, qui disait « nous sommes des êtres vivants et nous déformons le réel pour le penser ». Et Heidegger, l'autre maître de Lévinas, disait la même chose. « Il faut dépasser la pensée pratique pour accéder à l'être, dépasser les objets, ne pas réduire les choses à des objets et à des objets techniques, mais accéder à l'être bon. ». Donc Lévinas trouvait ce geste fondamental. Mais Lévinas, comme les autres phénoménologues, reprochait à Bergson sa pensée de l'intuition. Il disait, Bergson, faut revenir à la vie, à un autre aspect de la vie, un autre aspect du réel. Ne pas quitter le réel pour l'être
avant de spéculer, il faut vivre.
Oui, avant de spéculer, il faut vivre. Et après aussi, il faut revenir à la vie. La spéculation pure n'existe pas. Il y a un premier sens de la vie, qui est la vie pratique, qui nous éloigne du réel. Mais revenir au réel, c'est revenir à l'autre sens de la vie temporelle, la vie concrète, les actes dans le monde. Et d'ailleurs, aucun des deux sens de la vie ne doit être absolument condamné. C'est pour ça que vous trouverez deux philosophies de la technique, par exemple, entre Bergson et Heidegger, et que Lévinas sera toujours pris entre les deux. Pour Bergson, il faut critiquer un certain aspect de la pensée, ou de l'intelligence, ou de la technique, quand elle prétend être le tout de la pensée. Mais en même temps, dans son ordre, elle est nécessaire. La technique est nécessaire pour vivre. Elle peut alléger notre vie. Elle peut être très utile dans les deux sources de la morale et de la religion. Bergson dira qu'il y a un usage ouvert, pacifique, bienfaiteur de la technique, comme dans la médecine, par exemple.
Mais il y a une dimension pragmatiste la conception de l'intelligence par Bergson. Parce que là, dans ce que vous dites, vous parlez de technique quand on parle d'intelligence. Voilà, c'est-à-dire c'est agir.
L'intelligence, c'est agir. Ouais. Ce qui implique de la critiquer. Si on prétend qu'on peut tout penser à travers cette pensée qui nous déforme pour l'action, mais en même temps, c'est nécessaire. Et donc, il faut critiquer l'intelligence quand elle abuse de ses pouvoirs, mais pas en elle-même. Et c'est la grande différence avec la pensée heideggerienne qui reprend cette critique, mais qui la radicalise. Et c'est la grande erreur de tous ceux qui ont pensé que Bergson était un irrationaliste, un critique radical de l'intelligence. Critiquer, oui, c'est délimiter. Il y a une limite des pouvoirs de la technique et de l'intelligence, mais ça n'est pas pour autant qu'elle est entièrement illégitime. Dans son ordre, elle est vraie, les mathématiques sont vraies, la pensée est vraie, même si Bergson a évolué sur ce point, et si l'ordre même des textes dans le recueil « La pensée et le mouvant » montre cette évolution.
Il y a un autre contresens, puisque vous parlez du premier, hein, sur la pensée de Bergson, c'est de dire qu'il serait relativiste, parce que l'essentiel n'est pas ressaisissable par l'intelligence, ça veut dire qu'au fond, nous n'avons pas accès à la vérité, qu'il y a autant de vérité que de point de vue. C'est faux, parce qu'en réalité, Bergson déplace le lieu de l'intelligence, le lieu de la vérité, de l'intelligence vers une forme d'intuition, mais il est tout sauf relativiste.
Il n'est absolument pas relativiste. Il pense, comme Kant, au fond, que l'esprit humain est un filtre qui nous sépare du réel. Contrairement à Kant, pour lui, ce filtre n'est pas dans la sensation, mais dans l'action. Nous déformons le réel à travers le filtre de l'action. Mais justement, parce que c'est une action, on peut en prendre conscience et revenir à une intuition qui se dégage de ces filtres, et donc revenir au réel. Mais il y a un autre point sur lequel il n'est pas relativiste. C'est qu'il le dit très bien, l'action n'est pas dans l'irréel. L'action elle-même saisit quelque chose du réel. L'espace nous trompe sur le temps, mais il nous dit quelque chose sur la réalité de l'univers, sur la réalité de la matière. Donc il est deux fois réaliste. L'intelligence saisit un peu du réel à travers les mathématiques et la science, mais l'intuition saisit l'autre part du réel à travers le temps et l'intuition donc.
Dès les premières phrases du premier essai de La pensée et le mouvant, on trouve ceci: ce qui a le plus manqué à la philosophie, c'est la précision. Les systèmes philosophiques ne sont pas taillés à la mesure de la réalité où nous vivons, ils sont trop larges pour elle. Examinez tel d'entre eux, convenablement choisi, vous verrez qu'il s'appliquerait aussi bien à un monde où il n'y aurait pas de plantes, ni d'animaux, ni rien que des hommes, où les hommes se passeraient de boire et de manger, où ils ne dormiraient, ne rêveraient, ni ne divagueraient, où ils naîtraient décrépits pour finir nourrissons, où l'énergie remonterait la pente de la dégradation, où tout irait à rebours et se tiendrait à l'envers. C'est qu'un vrai système est un ensemble de conceptions si abstraites, et par conséquent si vastes, qu'on y ferait tenir tout le possible, et même de l'impossible, à côté du réel. Ce sont ces premières phrases d'Eric Worms où on voit cette volonté d'inclure ce qu'il appelle la vie dans son système. Et c'est peut-être ça qui est radicalement nouveau. En fait, est-ce qu'il appelle la vie le monde qui donne une espèce de chair à un système philosophique qui, sans cela, serait trop abstrait?
Oui, d'inclure la vie et le temps. Vous voyez bien dans tous les exemples, il y a cette idée, on manque toujours le temps, on manque ce monde où il y a des êtres vivants, des animaux et des êtres humains qui sont apparus, où l'énergie, c'est-à-dire la dépense d'énergie de l'univers, la thermodynamique va dans un certain sens, la perte d'énergie de l'univers, ce qu'on appelle aujourd'hui le réchauffement climatique d'ailleurs, l'énergie de l'univers aggravé par la technique, c'est réel, c'est du temps qui passe, c'est-à-dire qui produit des effets de destruction ou de création. Mais vous voyez, l'enjeu de ce texte, c'est aussi de prendre l'intelligence à son propre piège, de répondre à la science sur son propre terrain. Car que veut la science? Que veut la pensée logique? C'est connaître le réel, c'est saisir le réel. Or, elle est entraînée par ses instruments, qui sont nécessaires, encore une fois, les concepts mathématiques, le langage, elle est entraînée à manquer une part du réel. Et donc, ce que Bergson dit à la science, c'est « je vais vous compléter avec l'intuition ». L'intuition va saisir des aspects que vous manquez, l'aspect du réel que vous manquez. Et donc être précis, ça veut dire être sur le même terrain que la connaissance mathématique. Il y a une précision mathématique dans son ordre.
Ça veut dire que la science ne peut pas se passer de la philosophie.
Voilà, et que la science et la philosophie ont un seul et même combat, qui est de saisir par ces deux aspects la réalité complète, la réalité intégrale, comme dit Bergson, l'expérience intégrale. Et donc la science ne peut pas se passer de la philosophie, et inversement. Et la grande erreur, c'est de se contenter d'une des deux. Et Bergson a pris acte d'une division de notre esprit, d'une division de l'expérience. Et il a cherché à non pas à la dépasser, parce qu'elle est indépassable, et ça n'est pas un philosophe de la synthèse. Comme si chez Hegel, on disait, voilà, il y a la pensée, il y a l'intuition, l'intelligence, et puis il y a un troisième terme qui les réconcilie. Pas du tout. Nous sommes dans la division, et c'est, au fond, chez nous, êtres humains, indépassable. Chez Bergson, vous trouverez toujours une division. Son dernier livre s'appelle « Les deux sources ». L'ultime division, c'est le clos et l'ouvert.
Les deux sources de la morale et de la religion.
Les deux sources de la morale et de la religion. Mais c'est cette dualité que je voulais souligner. Et donc, jusqu'au bout, il y a cette idée qu'il y a une division, qu'elle est en partie insurmontable, et que le rôle de la philosophie, c'est de montrer l'importance des deux côtés. Et là, du côté de l'intuition et de l'intelligence, nous devons tenir les deux bouts. Être sur les deux fronts, marcher sur deux jambes.
Bergson, dans le texte que je lisais, pointe l'importance de prendre en compte la réalité où nous vivons, hein, et ne pas se cantonner à un système philosophique qui serait abstrait. Et c'est ce qu'il fait dans tous ses textes, et notamment dans ses essais introductifs dont nous parlons aujourd'hui, La pensée et le mouvant. Il part d'exemples qui nous paraissent très parlants, et à chaque fois on peut s'identifier à l'exemple qu'il prend, tellement il est simple et tellement il va directement à l'essentiel. On va écouter un extrait ensemble d'Eric Worms. C'est l'exemple de ce qu'il appelle l'oranger, donc la couleur orange. Quand on est face à la couleur orange, difficile de ne pas penser à l'assemblage du rouge et du jaune, et pourtant c'est ce qu'il appelle une illusion, un mouvement rétrograde du vrai. Écoutons le texte, et puis vous nous expliquerez l'expression ensuite.
Prenons une couleur telle que l'oranger. Comme nous connaissons en outre le rouge et le jaune, nous pouvons considérer l'oranger comme jaune en un sens, rouge dans l'autre, et dire que c'est un composé de jaune et de rouge. Mais supposez que l'oranger existant tel qu'il est, ni le jaune ni le rouge n'eussent encore paru dans le monde. L'oranger serait-il déjà composé de ces deux couleurs ? Évidemment non. La sensation de rouge et la sensation de jaune, impliquant tout un mécanisme nerveux et cérébral, en même temps que certaines dispositions spéciales de la conscience, sont des créations de la vie qui se sont produites, mais qui auraient pu ne pas se produire. Et s'il n'y avait jamais eu, ni sur notre planète, ni sur aucune autre, des êtres éprouvant ces deux sensations, la sensation d'oranger eût été une sensation simple. jamais n'y aurait figuré comme composante ou comme aspect les sensations de jaune et de rouge. Je reconnais que notre logique habituelle proteste. Mais c'est qu'elle est une logique de rétrospection. Elle ne peut pas ne pas rejeter dans le passé, à l'état de possibilité ou de virtualité, les réalités actuelles. De sorte que ce qui est composé maintenant doit, à ses yeux, l'avoir été toujours. Il ne s'agit certes pas de renoncer à cette logique, ni de s'insurger contre elle. Mais il faut l'élargir, l'assouplir, l'adapter à une durée où la nouveauté jaillit sans cesse et où l'évolution est créatrice.
Il est 10h26 sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Bergson, de la pensée, le mouvant, le dernier texte publié d'Henri Bergson en compagnie du philosophe Frédéric Worms. Le texte que l'on vient d'entendre interprété par le comédien Georges Clès nous dit que dès qu'on découvre quelque chose, on se dit que cette chose existait, nous précédait, existait depuis bien longtemps. Quand on regarde l'orange, on se dit oui, on sait comment l'orange a été produit, le mélange de deux couleurs, du rouge et du jaune. Or, il n'en est rien, nous dit Bergson. Cette chose que nous regardons, c'est nous qui la créons au moment où nous la regardons. C'est très étrange.
Oui, en réalité, ce très bel exemple vient illustrer ce que nous disions juste avant, c'est-à-dire le fait que nous avons un double rapport au réel et que, curieusement, c'est le second rapport au réel, celui qui devrait être même secondaire en un sens, qui vient l'emporter sur le premier. Il y a un renversement de priorité, de valeur. Nous avons une expérience des choses, une expérience de la couleur orange, ou bien une expérience de la musique, ou bien une expérience de l'action humaine, de souffrance ou plaisir. Ça, c'est notre premier rapport au réel, une expérience simple, dit Bergson. Toute expérience est en un sens simple, c'est-à-dire qualitative, indivisible. Là, nous avons une expérience de cet instant, dans cette conversation. Et puis, nous avons un deuxième rapport au réel, qui est nécessaire aussi, par ailleurs, mais qui vient, en quelque sorte, usurper le premier, qui vient le remplacer, une expérience intellectuelle, analytique. Et l'expérience de l'oranger est ici un exemple magnifique, puisque l'oranger est une couleur comme une autre, une couleur simple, mais en même temps, l'intelligence et l'analyse humaine, par définition, il voit plutôt un mixte de rouge et de jaune, au fond. Et au fond, nous pouvons produire, analyser et reproduire l'orange en mélangeant du rouge et du jaune. Et donc, ce que dit Bergson, c'est que ce deuxième point de vue, qui a sa nécessité, a sa part de vérité, vient presque contredire le premier. Et on imagine tout de suite ici quelqu'un qui vous dit « Mais non, l'orange, ça n'existe pas, tu te trompes quand tu penses que tu as une expérience de l'orange. » En fait, ce n'est pas une expérience de l'orange que tu as, c'est une expérience du rouge et du jaune. Et si on va plus loin, vous allez avoir un physicien qui va vous dire « Mais non, cette sensation de couleur, elle n'existe pas. Ce qu'il y a en réalité, c'est des atomes qui sont sans couleur. C'est la matière pure de l'univers, comme chez Descartes. C'est l'étendue sans qualité. Les qualités, du coup, n'existent plus. L'expérience humaine n'existe plus. Et ça s'étend à l'action libre. On te dit « Tu penses que tu as choisi librement ton acte. » Mais pas du tout, tu l'as choisi en fait parce que tu étais déterminé par des causes sociales, par des causes psychologiques, par des causes ceci, par des causes cela. Et au fond, ce point de vue analytique, qui est secondaire, vient empiéter sur l'intuition initiale et la contester. Et ce point de vue n'est pas entièrement récusé par Bergson, encore une fois. Il est même nécessaire. Et même cet effet...
Le point de vue scientifique, vous voulez dire.
Scientifique,
déterministe.
Il a sa nécessité pour maîtriser le réel, et même il saisit quelque chose du réel. Mais... En même temps, il devient abusif quand il se prétend complet, quand il est excessif, quand il vient annuler, prétend qu'il peut annuler l'expérience simple qui a précédé. Et quand Bergson, dans son dernier livre dont nous parlons aujourd'hui, veut expliquer son cheminement antérieur, il entre lui-même délibérément dans cette rétrospection, mais ça n'est surtout pas pour dire, et même il le dit très clairement, qu'on peut reconstruire le mouvement de son œuvre elle-même. Et il va revenir sur le lien entre ces quatre grands livres, l'essai sur les données immédiates de la conscience, matière et mémoire, l'évolution créatrice et les dessous de la morale et de la religion, qu'il a écrit avant même le texte qu'il publie pour en parler, rétrospectivement. Et en même temps, ce qu'il dit, c'est que on ne peut pas déduire l'un de ses livres à partir de l'autre, que chacun a été une surprise indivisible, nouvelle, un surgissement de nouveautés. C'est rétrospectivement qu'on peut dire, bah oui, matière et mémoire répond à un problème de l'essai sur les données immédiates de la conscience, et etc., etc. Donc il faut les deux points de vue tout le temps.
Mais c'est dès lors qu'on sort d'une pensée du temps qui serait linéaire, que le mouvement qui consiste à regarder vers l'arrière et en arrière et adopter un élan rétrospectif qui devient une illusion. Hein. C'est ce que Bergson appelle le mouvement rétrograde du vrai. Regarder l'orange, quelque chose de couleur orange, en disant c'est avant c'était du rouge et du jaune qui se sont mélangés, c'est avoir un regard rétrospectif, c'est ce mouvement rétrograde du vrai. Et c'est non pas une illusion, mais ça n'épuise pas la réalité de ce que je vois.
Exactement, c'est une illusion seulement si on croit que ça épuise.
Mais Bergson ne se rend pas service en quelque sorte dans ce texte, puisqu'il dit que les couleurs sont des sensations. Il dit la sensation du rouge et la sensation du jaune sont aussi des créations de la vie. Pour un esprit un peu rationaliste, et pas forcément dogmatique hein, d'ailleurs, mais qui fonctionne selon les lois de la logique, on lui dit mais qu'est-ce que vous voulez dire à partir de ça? Si les couleurs ne sont que des sensations, il n'y a rien à en dire.
Les sensations de la vie, c'est extrêmement précis et ça rejoint en fait ce que disent aujourd'hui les sciences cognitives. C'est-à-dire qu'au fond, les couleurs sont la rencontre entre une partie du réel, qui a pour Bergson une part de qualité sensible, et un cerveau bien précis, qui est le cerveau humain, qui va découper le réel et qui va y percevoir selon ses longueurs d'onde, en quelque sorte. Hein, nous percevons du rouge, du jaune, nous ne pouvons pas percevoir l'infrarouge ou des couleurs que nous ne percevons pas parce que notre cerveau n'en est pas capable. Donc, sensation, ça ne veut pas dire que c'est complètement immaîtrisable par la raison. Au contraire, il faut comprendre comment scientifiquement, comment c'est possible, comment l'évolution a permis ces sensations. Mais en même temps, sensation, c'est aussi quelque chose d'absolument qualitatif, non constructible a priori. Vous ne pouvez pas donner l'idée, c'est un vieux problème philosophique, l'idée d'une couleur à un aveugle ou l'idée d'un son à un sourd. Malheureusement et heureusement, l'expérience sensible a aussi quelque chose de subjectif, d'irréductible, d'imprévisible, change notre vie. Je peux avoir vécu toutes les sensations de rouge que je veux. Quand je vais me trouver devant un rouge nouveau, Bergson dit aussi le vert que crée un grand peintre. Il y a du vert, mais il y a en fait des verts. Il y a le vert de l'herbe et le vert de Constable. Et ce vert de Constable, c'est Constable qui l'a créé. Nous réduisons le vert au vert en général. Et en même temps, le rôle de la pensée humaine, c'est de revenir à chaque sensation singulière de vert.
Mais comment faire, et surtout quand on est philosophe, comment que peut dire la philosophie de cette partie de notre existence qui est absolument singulière, absolument impartageable, qui relève d'une intuition, d'une sensation? On n'est plus dans le registre de la littérature ou de la poésie. Comment la philosophie peut-elle ressaisir cette partie-là?
D'abord, par un travail critique. Bergson, contrairement à ce qu'on croit, est un penseur de l'intuition, mais ce que vous trouverez dans ses œuvres, c'est beaucoup de critiques. Il y a un problème qui est saisi comme un problème à partir d'une intuition. Par exemple, c'est l'intuition du temps qui dit non, ça peut pas être seulement ça. Ça peut pas être de l'espace. C'est un refus. L'intuition est d'abord un refus. Et Bergson disait à ses élèves au Collège de France, tout ce public qui venait l'écouter, la seule chose que j'ai dite, c'est que le temps n'est pas de l'espace. Donc c'est un refus. Après, ce refus est testé de manière critique sur des problèmes précis. Et ensuite, on peut comprendre que oui, la vie est un élan, par exemple, ce fameux élan vital, où la morale pure est une morale ouverte. Ça, ce sont des thèses très précises qu'il ne faut pas réduire à des métaphores, parce que précisément...
C'est pour ça que je vous pose la question. Il faut défendre Bergson face à ses détracteurs qui disent, mais voilà, il est dans un élan spiritualiste, poétique, illuminé en fait.
Non, Bergson est très cohérent et au fond, il en rajoute même sur le travail de la pensée. Contrairement à ce qu'on croit, l'intuition qui est à la marque du réel dans notre pensée, à travers ses refus, doit s'attester par un surcroît de pensée. Je dis parfois qu'il faut, chez lui, penser la pensée pour faire l'expérience de l'expérience. C'est-à-dire il y a une pensée qui nous en éloigne, il faut donc la critique. Et c'est la critique de ce qui nous sépare du réel. Par exemple, pour penser la vie, pourquoi les systèmes de nos concepts ne suffisent pas. Il faut une critique systématique pour ressaisir cette part du réel qui leur échappe. Et donc, c'est un super intellectualiste, bien loin d'être seulement un intuitionniste.
Parce qu'on a voulu le réduire effectivement à cette dimension un peu qui échappe à toute forme de geste philosophique. Or, il faut comprendre que lui-même redéfinit ce geste philosophique de manière extrêmement rigoureuse. J'ai lu les premiers textes. Ce qui a le plus manqué à la philosophie, c'est la précision. Et Bergson, peut-être plus qu'aucun autre philosophe, c'est que peut-être le geste philosophique consiste à définir les thèmes, les termes qu'on emploie pour être le plus rigoureux possible dans sa pensée.
Absolument. Et parmi les héritages inattendus de Bergson, le livre « La pensée et le mouvant » est à la fois un testament philosophique, un recueil inattendu qui comporte... 7 essais philosophiques dans un ordre non chronologique, Curieusement, pour un livre sur le temps, pour un penseur du temps, il met ses essais dans un ordre rétrospectif assumé, qui comporte aussi trois hommages à des philosophes. Il ne faut jamais les oublier. Oui. Il y a trois hommages à des philosophes et savants, Claude Bernard, William James et Félix Ravaisson, qu'il faut lire. Ce sont des hommages à des figures très importantes. Et ce livre a eu aussi toute une place dans l'histoire de la philosophie française en particulier, et des effets inattendus. On a parlé de Lévinas, on pourrait citer Jean Kelevich, qui est plus attendu, qui est le militant du bergsonisme.
Auquel il a consacré un ouvrage extraordinaire d'ailleurs sur la pensée de Bergson.
Voilà, et aussi avec tout de suite une part de critique, comme tous les continuateurs originaux, comme dit Bergson, ceux qui continuent en créant et qui apportent aussi leur singularité à eux. Et puis il y a quelqu'un d'un peu plus inattendu dans cette histoire, c'est Georges Canguilhem, qui est le grand philosophe de la vie après Bergson en France, philosophe de la médecine, et qui en 1952 publie un recueil intitulé « La connaissance de la vie ». Et je ne sais pas si vous vous souvenez du titre de l'introduction de ce recueil.
Non.
Une introduction répondant à une autre. Canguilhem intitule l'introduction de son recueil « La pensée et le vivant ». Et c'est un hommage évidemment à la pensée et le mouvant, mais c'est un hommage un peu critique. Je vais vous citer une phrase. « On admet trop facilement, dit Canguilhem, l'existence entre la connaissance et la vie d'un conflit fondamental. » Et ça pourrait conduire à, dit-il, nous n'aurions alors le choix qu'entre un intellectualisme cristallin, c'est-à-dire transparent et inerte, et un mysticisme trouble, à la fois actif et brouillon. Et bien sûr, on pourrait croire qu'il met Bergson du côté de ce mysticisme trouble. Eh bien, pas du tout. En fait, il comprend très bien que Bergson n'est ni le critique d'un intellectualisme abstrait, ni simplement le défenseur d'une intuition trouble. Ce sont deux penseurs qui ont cherché à comprendre le vivant dans sa pensée réelle, et en même temps dans ses intuitions libres, dans sa singularité subjective, dans ses créations historiques.
Alors on va entendre la conclusion du deuxième essai introductif, hein, puisque ce sont ces deux essais introductifs que nous voyons ensemble, Frédéric Worms. On a dit quelques mots de la suite du recueil, on y reviendra sans doute. Mais ce dernier paragraphe est plus autobiographique peut-être. Il se termine avec une phrase que je ne dévoile pas, écoutez-la, prononcée par Georges Clay. C'est quelque chose d'assez solennel et aussi d'un peu ironique, peut-être, enfin ironique, en tout cas un peu décalé, parce qu'il ne se tient pas forcément à ce qu'il dit lui-même. Écoutez donc ces dernières lignes. Je crois que tout ce que vous venez de dire, Frédéric Worms, depuis le début de cette émission, nous permet de comprendre parfaitement ce texte.
Notre initiation à la vraie méthode philosophique date du jour où nous rejetâmes les solutions verbales, ayant trouvé dans la vie intérieure un premier champ d'expérience. Tout progrès fut ensuite un agrandissement de ce champ. Étendre logiquement une conclusion, l'appliquer à d'autres objets sans avoir réellement élargi le cercle de ses investigations, est une inclination naturelle à l'esprit humain, mais à laquelle il ne faut jamais céder. La philosophie s'y abandonne naïvement quand elle est dialectique pure, c'est-à-dire tentative pour construire une métaphysique avec les connaissances rudimentaires qu'on trouve emmagasinées dans le langage. Elle continue à le faire quand elle érige certaines conclusions tirées de certains faits en principes généraux applicables au reste des choses. Contre cette manière de philosopher, toute notre activité philosophique fut une protestation. Nous avions ainsi dû laisser de côté des questions importantes auxquelles nous aurions facilement donné un simulacre de réponse en prolongeant jusqu'à elles les résultats de nos précédents travaux. Nous ne répondrons à telle ou telle d'entre elles que s'il nous est concédé le temps et la force de la résoudre en elle-même, pour elle-même. Sinon, reconnaissant à notre méthode de nous avoir donné ce que nous croyons être la solution précise de quelques problèmes, constatant que nous ne pouvons, quant à nous, en tirer davantage, nous en resterons là. On n'est jamais tenu de faire un livre. Janvier 1922.
On n'est jamais tenu de faire un livre. C'est Bergson qui le dit par la voix de Georges Clay sur France Culture à 10h39. Et pourtant, Frédéric Worms, au moment où il écrit ces lignes, il finit l'introduction à un nouveau livre.
Non seulement il finit l'introduction à un nouveau livre, celui où on lit cette phrase, mais il évoque un livre qui est paru entre-temps, c'est-à-dire son livre sur la morale et sur la religion, que ses lecteurs attendaient depuis son premier livre, presque 50 ans auparavant, L'essai sur les données immédiates de la conscience, de 1889. On est là en 1934, et 32 pour les deux sources de la morale et de la religion. Qu'est-ce que veut dire Bergson? C'est exactement l'objet de tout ce texte introductif que nous commentons. En 1889, donc il a 30 ans, il est d'un des plus jeunes auteurs, d'un des plus grands livres de la philosophie, donc c'est un coup d'éclat. Ce livre se termine sur la liberté. Et curieusement, de cette liberté, métaphysiquement affirmée, empiriquement démontrée, à partir de la durée dont on a parlé tout à l'heure, Bergson ne tire pas de conclusion morale. Et tout le monde lui demande une morale. Et même, tout le monde écrit sa morale à sa place. Ses élèves vont écrire la morale de Bergson pendant 40 ans. Mais vraiment, de manière... Il y en a eu de toutes sortes. Vous avez eu des morales irrationalistes, les futuristes italiens, qui disent l'élan vital, c'est la guerre, c'est le combat, Georges Sorel, la grève générale, comme morale bergsonienne. Vous avez au contraire des morales traditionnalistes, Jacques Chevalier, qui dit l'intuition des vérités éternelles, c'est la morale éternelle contre le rationalisme kantien. Vous avez Maurice Barrès, tout un irrationalisme aussi, on pourrait presque dire d'extrême droite, l'extrême gauche. C'est pour ça que Bergson, en un sens, c'est la France, et que dans La gloire de Bergson, François Azoulay a pu réduire la morale de Bergson à ses lectures extérieures, ce qui est une erreur, à mon avis. Donc il y a eu, les bergsoniens ont écrit la morale de Bergson à sa place. Et en 1922, quand il écrit cette préface, il est en train en fait d'écrire son livre sur la morale, mais il n'est pas sûr. Vous avez noté cette phrase magnifique, « Si la vie nous donne des forces, on va peut-être y arriver ». Ça veut dire qu'il n'est pas sûr d'y arriver, parce qu'à ce moment-là, il est perclus de rhumatisme, il a une maladie grave. Il vient d'être nommé président de la commission créée par l'UNESCO de l'époque,
la
Société des Nations, la Commission internationale de coopération intellectuelle. Il est suroccupé, il n'est pas sûr de finir son livre sur la morale. Et il y a 45 ans que les gens le lui demandent, et l'écrivent à sa place. Et il dit, je le ferai si je peux. On n'est jamais tenu de faire un livre janvier 1922, comme Georges Claes l'a magnifiquement lu. C'est-à-dire que c'est daté, il publie en 34, mais il date de 1922, parce qu'il rame, en quelque sorte, pardon de l'expression familière, pour écrire son grand livre de morale. Finalement, il y arrive. Il le publie en 1932, et ça n'est pas du tout la morale que les uns et les autres attendaient. Les uns attendaient une morale irrationaliste ceci, les autres une morale guerrière. La morale de Bergson, c'est la distinction du clos et de l'ouvert. La finitude de l'espèce humaine n'est pas seulement spatiale, mais sociale, et elle conduit à la guerre. Et c'est les limites de la vie, et c'est en nous, irréductiblement. Mais il y a un reste de création possible, et ça se traduit chez l'homme par une morale ouverte, c'est-à-dire une morale qui n'est pas seulement pour nous contre les autres, mais qui est non seulement pour tout le monde de manière logique, c'est pas un universel logique, mais qui résiste à cette clôture et qui, en effet, lutte contre la guerre pour la paix, et c'est toujours le critère moral de la mystique bergsonienne. Bon, puisqu'il défend le fait que ce sont seuls les grands mystiques qui ont produit cette morale ouverte. Mais le point important...
Donc la guerre est inévitable, mais le mysticisme peut nous en sauver.
Le mysticisme fondé sur le critère de la morale, effectivement. Non seulement peut nous en sauver, mais il y a des individus qui surgissent, des grands hommes de bien, comme dit Bergson, qui surgissent pour nous délivrer de la fatalité de la guerre. Mais la fatalité de la guerre va toujours revenir. On n'est pas sauvé. On n'est jamais sauvé définitivement. Mais on a la graine est semée, la braise est là, qu'il faut toujours reprendre contre la guerre. Et on est toujours dans ce combat du clos et de l'ouvert. Le thème de la société ouverte, qui de Bergson a aujourd'hui en France, notez-le, a quand même beaucoup circulé. Mais c'est Bergson qui l'a inventé. Il a frappé plusieurs médailles qui sont toujours là, l'homo faber, l'élan vital, et surtout la société ouverte. Mais le point important, au fond, c'est de dire, cette morale, elle n'était pas déductible de mes précédents livres. Il y a une illusion rétrospective. Maintenant que vous avez la morale ouverte, vous pouvez dire, bien sûr, c'était là, dans la liberté de l'essai sur les données immédiates de la conscience, c'était là, et vous auriez pu la déduire. Mais tous les bergsoniens, ils avaient déduit d'autres morales tout à fait différentes. Donc ça vient prouver sa thèse méthodologique, qui est l'objet du recueil, l'illusion rétrospective du vrai. Il y a une vérité qui a surgi, elle se projette rétroactivement, mais n'oublions pas que ça comporte une part d'illusion, et l'illusion que c'était déductible conduit à l'erreur des disciples.
Est-ce que c'est pour ça que...
L'erreur du bergsonisme clos.
Voilà, mais
il faut un bergsonisme ouvert.
C'est pour ça que dans ce recueil qu'on va lire cette semaine avec vos collègues, demain, mercredi, jeudi, l'ordre des textes ne suit pas l'ordre chronologique.
Absolument. Ça ne suit pas l'ordre chronologique parce que on aurait l'impression que la chronologie a engendré toute seule les livres de façon déductive. Or, en réalité, paradoxalement, pour faire sentir le temps réel, il faut assumer le fait que nous sommes dans le nouveau et qu'il éclaire rétrospectivement le passé. Il y a d'autres raisons, c'est que Bergson lui-même a évolué. Et sur un problème fondamental, par exemple, que vous retrouverez sans doute en effet dans les autres conversations, sur la place de l'intelligence dans le réel. En 1903, quand il publie l'introduction à la métaphysique, qui est maintenant le cinquième chapitre du livre, il dit qu'il y a une réalité...
Le sixième.
Ouais. Oui, parce qu'il y a deux chapitres introductifs. Il dit que l'intuition saisit le réel et l'intelligence est purement fictive, ne saisit que du faux. Et puis en fait, après l'évolution créatrice, 1907, ça change. L'espace est aussi une part du réel, la matière, l'intelligence, comme nous le disions tout à l'heure, saisit une part du réel. Donc il n'y a pas d'un côté le réel temporel et de l'autre côté la fiction spatiale. Le réel et l'espace, le temps et l'espace sont les deux faces de la réalité elle-même. Donc ça change, il y a ce double réalisme. Et Bergson veut montrer qu'il a évolué, c'est pour ça que vous trouverez quelques notes dans les chapitres dont nous parlons, des notes qui disent « Bon, je ne dis plus la même chose qu'en 1903 ». Mais c'est maintenant que je dis la vérité. J'aurais pas pu déduire mes thèses de 1922 à partir de celles de 1903. Je vous mets quand même celles de 1903 parce que le noyau dur de l'intuition ne change pas. Mon idée fondamentale, cette phrase que vous aimez tant, j'ai une seule idée. Elle engendre des thèses différentes selon les problèmes, mais en même temps, c'est toujours la même idée. Et l'intuition
c'est
une
impulsion.
C'est
cette chose de simple, de si simple, de si extraordinairement simple que c'est pourquoi le philosophe a parlé, n'a jamais réussi à le dire, et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. On trouve ça dans l'introduction métaphysique, et tout Bergson se tient en ce point simple, et c'est absolument imparable.
Absolument, ou ces deux autres phrases magnifiques. L'intuition métaphysique est tout autre chose que le résumé ou la synthèse de nos connaissances. Elle s'en distingue comme l'impulsion motrice du chemin parcouru par le mobile, comme la tension du ressort se distingue des mouvements visibles dans le pendule. Ou une autre phrase, ce centre de force d'ailleurs inaccessible, d'où par l'impulsion qui donne l'élan, c'est-à-dire l'intuition même. Et ça n'est pas une métaphore. L'intuition est une impulsion, est une force. Ça n'est pas seulement par image qu'on peut dire que c'est une force. C'est une force vitale.
Le temps passe, créatrice. Le temps passe, mais pourvu que le temps dure. Ce sont les sœurs Étienne qui nous chantent cette chanson finale à ce Bergsonian finalement. Merci beaucoup Frédéric Worms.
Merci à vous Adèle.
D'être venu nous parler de la pensée et le mouvement aujourd'hui et puis d'avoir tant œuvré pour l'œuvre de Bergson. Je rappelle, c'est vous qui avez dirigé la première édition critique de Bergson, le choc Bergson, c'est ainsi que vous l'aviez intitulé à l'époque. Les ouvrages sont reparus depuis aux presses universitaires de France. Ces ouvrages sont donc disponibles actuellement et surtout la pensée et le mouvement qui nous accompagne cette semaine. On se retrouve demain pour parler du possible et du réel. Tout un programme en compagnie d'Arnaud François. Mais sur France Culture, les chemins de la philosophie, le temps dure quand tu n'es pas là, chante la sœur Étienne. Mais vous êtes là, Géraldine Mosson-Savoy, et le temps passe. Bonjour à vous.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Pour vos 2 minutes papillon quotidiennes, vous nous parlez d'un livre de philosophie qui vient de paraître. Et aujourd'hui, oula, le cœur et la machine.
Oui, c'est une théorie des super-héros qui nous est ici proposée dans cet ouvrage d'Emmanuel Pasquier. Alors ce n'est pas la première théorie des super-héros que l'on peut découvrir et ce ne sera sûrement pas la dernière. Les figures et les objets pop sont en vogue dans les essais philosophiques et les Superman, Batman et autres personnages issus des comics, au vu de leur prolifération en séries, films et BD, ont encore un bel avenir devant eux. Mais ce n'est pourtant pas non plus une théorie de plus sur le sujet. Et d'abord parce qu'elle pose certes l'éternelle question à propos des super-héros, celle de la norme et de l'exception, à savoir comment avoir une vie normale alors qu'on est tellement exceptionnel? Et inversement, comment avoir une vie exceptionnelle alors qu'on est tellement normal? Voilà donc l'éternelle question des super-héros, tout de suite posée donc, mais pour être mieux transformée. Car ce qui intéresse Emmanuel Pasquier, ce n'est pas tant la norme et l'exception que l'exception seule, seulement le héros, l'héroïsme.
The world's favorite comic book hero, followed by 84 million readers a year. Now, he comes alive. For the first time on the screen, you'll see it all. The spectacular adventures of the amazing Spider-Man.
À quoi bon Spider-Man? À quoi bon des super-héros qui ne font que multiplier des péripéties sans fin ni conséquences? Où est donc l'héroïsme dans cette répétition à l'infini de l'homme ordinaire qui ne se dépasse pas par lui-même, mais auquel on a adjoint des forces extérieures? Où est donc l'exploit dans ces actions qui ne font de rien, qui ne transcendent pas les inhibitions sociales, mais qui sont au contraire déployées dans des séries à répétition? Où est donc le cœur, la singularité dans ce mécanisme bien huilé? Voilà les questions que pose cet ouvrage. Les super-héros ont ceci de paradoxal que leurs super pouvoirs n'ont rien de l'héroïsme classique, car leur héroïsme tient en fait qu'à maintenir un ordre déjà connu et en série. Mais là, et peut-être d'ailleurs leur pouvoir, leur simple pouvoir, représenter ce qui est déjà là, rejouer, répéter une structure sociale familière, celle de nos sociétés de masse, mais pour en révéler cette étrangeté.
Ouais, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est vous le super-héros, Géraldine.
Exactement, bah, pourquoi pas vous aussi, Adèle?
Bon, c'est pas opposé à la normalité, c'est ce que vous disiez,
voilà.
C'est ce qu'on trouve dans ce livre.
Exactement, c'est toute une réflexion sur l'exception, donc c'est d'Emmanuel Pasquier, c'est Le cœur et la machine, théorie des super-héros, et c'est aux éditions Matériologiques.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie, et on se quitte avec Isarène, je crois, la suite du Cologne Concert, une surprise de Nicolas Berger que j'apprécie. Merci Nicolas, c'est pour vous, chers auditeurs, alors je n'ai pas envie de parler dessus, je vous laisse écouter un petit peu, puis je reprends la parole. Concert est une des choses les plus belles qui soient sur Terre. Mais quand même, on se retrouve demain. Continuons, hein. Finissons cette émission, même si les choses ne finissent jamais, nous dirait Bergson. Demain, on se retrouve avec Arnaud François pour parler donc d'un essai de La pensée et le mouvement qui s'appelle Le possible et le réel. Pour réécouter cette émission en compagnie de Frédéric Worms, rien de plus simple, hein, vous vous rendez sur le site des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Nicolas Bouteloup, Livia Garrigue, Marianne Chasseur, Antoine Ravon, Géraldine Bosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise l'émission cette semaine, Emmanuel Morse-Duncan qui était à la prise de son. Rendez-vous sur Facebook et Twitter, hein, nous attendons vos remarques et commentaires.